Et je vous invite à trouver avec moi la lettre de Paul aux Romains. La lettre de Paul aux Romains, chapitre 5. Lettre de Paul aux Romains, chapitre 5. Faut le savoir, vous le savez peut-être, mais l'apôtre Paul était quelqu'un de très logique. Et souvent, lorsqu'il écrivait, il annonçait une vérité, une chose, et il disait, bon, ceci est vrai. Et parce que cela est vrai, ben voici aussi ce qui est vrai. Et parce que cette deuxième chose est vraie, ben voici maintenant cette troisième chose qui est vraie aussi. Et très logiquement, il partait d'une idée pour aller à son but qu'il avait pour les personnes auxquelles il écrivait. Et l'épître aux Romains, cette lettre que Paul écrit à cette église qu'il ne connaissait pas, va dans ce sens. Et Paul démarre cette lettre, bien sûr avec ses salutations, mais très vite, il commence à parler de la justification, non pas par les œuvres, comme si on pourrait travailler pour notre salut, gagner notre salut, mais il parle de la justification par la foi. Et il fait tout ce raisonnement jusqu'au chapitre 11. Et à partir du chapitre 12, plus ou moins, il va dire maintenant, à cause de cela, voici la conséquence dans votre vie actuelle. Mais nous sommes au chapitre 5, et justement, le verset 1, il va commencer en disant, un étant donc, et en fait, dans les chapitres précédents, il a parlé d'Abraham, et comment Abraham a été justifié, non pas par les œuvres, mais par la foi. Et il dit, étant donc justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Et ici, il est tellement encourageant, et c'est pour cela que je commence avec cela, étant donc justifié par la foi. Si vous avez reçu Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, c'est votre cas aujourd'hui. Toute personne sauvée est sauvée par la foi. On n'est pas sauvé par aucun autre moyen, mais par la foi. Étant donc justifié par la foi, Paul dit la conséquence logique et obligatoire de cela, c'est que nous avons la paix avec Dieu. Et lorsqu'on commence à réfléchir là-dessus, on est en paix avec Dieu. Dieu n'est plus en colère contre nous. La colère de Dieu n'est plus au-dessus de nous, comme Jean va expliquer dans Jean chapitre 3. Mais non, nous sommes en paix avec Dieu. Nous sommes justifiés par la foi, non pas par nos œuvres, Éphésiens chapitre 2. Sinon, on aurait sujet de se glorifier en disant, regardez ce que moi j'ai fait. Non, nous sommes justifiés par la foi. Nous avons cette paix avec Dieu et bien sûr, c'est par Jésus-Christ. Et Paul écrit cela aux Romains, qui eux le savaient. Paul est en train de rappeler quelque chose ici, et pour moi-même, c'est un rappel parce que je suis passé par cela. Il y avait un jour, j'étais jeune, mais je m'en rappelle, où je suis passé de la mort à la vie, spirituellement, où par la foi, j'ai prié, j'ai accepté Jésus-Christ comme mon sauveur personnel. Et je sais que beaucoup ici l'ont fait, j'aimerais croire que tout le monde, ici, ce matin, à un moment donné, a fait ce qu'on appelle ce pas de foi. Que chacun ici est justifié par la foi. Si tel n'est pas votre cas, ceci peut être le jour du salut. Mais si c'est notre cas, Paul a des choses à nous dire dans ce passage. Et c'est tellement formidable. Mais avant d'aller plus loin, pour comprendre ce que Paul a à nous dire ce que Dieu dit à travers lui pour nous aujourd'hui. Prions pour demander l'aide de Dieu pour comprendre cela. Oui, Seigneur, nous venons vers toi et nous te demandons ton aide pour comprendre ce passage. que tu parles à notre cœur, que tu nous éclaires par le Saint-Esprit. Nous te louons de nous avoir donné cette parole que nous pouvons étudier, qui est compréhensible pour nous. Et Seigneur, que tu nous aides à travers ces quelques instants que nous passons dans ta parole, de grandir en toi, que tu nous transformes par ta grâce, par ta puissance, et que ce soit pour ton honneur et pour ta gloire. En ton nom, nous prions. Amen. Amen. Alors, Paul va faire plusieurs affirmations très étonnantes dans ce passage. Et je suis convaincu que parce qu'il va faire ces affirmations assez étonnantes, il commence avec quelque chose qui je ne veux pas dire banal, mais qui est le solide fondement pour qu'on ne soit pas ébranlé par la suite. Parce que verset 1, comme nous avons vu, nous sommes justifiés par la foi et par cette foi, nous avons cette paix avec Dieu. Ça, c'est le fondement. Sans ce fondement, le reste s'écroule. Et dans le verset 2, Paul continue en disant « À qui, donc par Jésus-Christ, nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce. » Alors, Paul, très souvent, va allier foi et grâce, bien sûr, non seulement pour le salut, mais pour notre vie tous les jours. Parce que si la foi et la grâce étaient seulement pour le salut, on serait bien malheureux. Parce que ça voudrait dire qu'il faut vivre notre vie de tous les jours, combattre un peu dans ce monde par nos propres moyens. Mais non, ce n'est pas le cas. Nous avons la grâce de Dieu, non seulement pour le salut, à un moment donné, mais aussi chaque jour. C'est quelque chose qui est formidable, et nous le savons. Et Paul dit... Nous avons eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Et si nous sommes sauvés aujourd'hui, si nous sommes enfants de Dieu, si nous sommes justifiés par la foi, comme Paul explique dans ses versets, cette espérance de la gloire de Dieu est la nôtre. Et ce n'est pas simplement pour Paul, ce n'est pas simplement pour les Romains à son époque, ces chrétiens de l'église de Rome, c'est les chrétiens de l'église d'Éphèse auxquels il va écrire, tous les autres chrétiens auxquels il va écrire. Non, c'est pour nous ici à Vernon au XXIe siècle. Si nous sommes sauvés, nous avons cette espérance, nous demeurons fermes, nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. C'est une réalité. Et nous le savons. Mais il est vrai que parfois, les circonstances dans notre vie, maladies, problèmes, épreuves, ce qu'on peut appeler des tribulations, ce que Paul va appeler affliction dans le verset suivant, peuvent venir et nous voiler un peu les yeux. Peuvent nous faire passer de cette perspective d'une espérance glorieuse auprès de Jésus-Christ et Dieu pendant toute l'éternité, et nous faire focaliser sur nos circonstances actuelles et enlever de notre vie la puissance, la grâce que Dieu veut manifester à travers nous. Et Paul, dans les versets qui suivent, va expliquer, comme j'ai dit, un ensemble de choses très étonnantes, des choses bouleversantes. Et pour les Romains qui lisaient ceci pour la première fois, il y a pratiquement 2000 ans, lorsqu'ils ont lu cela, je suis convaincu qu'ils étaient étonnés, bouleversés. Mais nous, parce que nous avons lu ce passage à bien des reprises, j'espère, ceci n'est pas une découverte pour nous ce matin, mais essayons par la grâce de Dieu d'être dans cette perspective, comme si on lisait ces versets pour la première fois. Parce que ce que Paul va dire devrait nous changer, devrait nous saisir, parce que, bien sûr, c'est Dieu qui le dit. Alors, verset 2, Paul va terminer ce verset en parlant de cette espérance de la gloire de Dieu, et nous nous glorifions de cela. Ce n'est pas un orgueil ici, mais souvenons-nous, là-bas, c'est la justification par la foi. Dieu nous a sauvés, et parce que Dieu nous a sauvés, nous avons cette espérance en lui. Et verset 3, regardez bien plus, comme si cela n'était pas assez, nous nous glorifions même des bénédictions, des bonnes choses qui arrivent, les choses formidables, quand tout va bien. Non, on aimerait que Paul dise cela. Nous nous glorifions même des afflictions. Et en lisant cela, je dois me poser la question, est-ce que je me glorifie des afflictions qui arrivent dans ma vie? Paul, vous le savez, il avait une écharpe dans la chair. Le but spécifique de ce problème physique qu'il avait, c'était pour le garder dans l'humilité. Imaginez-vous Paul qui avait besoin d'être gardé dans l'humilité. C'est quand même l'apôtre Paul. Une relation tellement intime, étroite avec Dieu. Il y avait le risque d'orgueil chez lui. Non, mais ce n'est pas possible. Et pourtant. Et Paul dit ici, bien plus, nous. Donc, il parle de lui-même. Nous, nous glorifions même des afflictions. Alors, on aime bien nous glorifier, nous souvenir, nous réjouir en pensant à notre salut en Jésus-Christ. Jésus est mort pour nous, et parce qu'il est mort pour nous, et parce qu'on l'a reçu par la foi, il n'y a maintenant plus aucune condamnation pour nous. Gloire à Dieu. Amen. C'est formidable. Et cela est juste. Il faut se réjouir de cela. Mais quelle est la dernière fois que, devant une situation difficile, devant une épreuve, devant ce qu'on peut appeler une affliction, on s'est réjoui? Je dois dire pour moi-même que ça arrive très, très rarement. Devant l'affliction, quelle est notre réaction? Mais Seigneur, sors-moi de là! Mais Seigneur, enlève! Seigneur, fais que ceci s'arrête! Et quelque part, on comprend. Lorsque des choses dures nous arrivent, cette réaction naturelle de vouloir s'en sortir ou de vouloir que l'épreuve s'arrête, tout à fait naturelle, et parfois Dieu va l'enlever. Parfois Dieu va nous tirer de cela. Comme il a fait avec Pierre, Pierre qui marchait sur l'eau, et puis à un moment donné, il regarde les vagues, le vent autour de lui, il commence à s'enfoncer. Et il crie vers Jésus en disant « Seigneur, sauve-moi !» Et Jésus ne le laisse pas s'enfoncer, heureusement. Il ne dit pas « Débrouille-toi, fais-moi plus confiance ». Non, non, il sort Pierre de là, il lui tend la main et il le sort. Gloire à Dieu. Amen. Il a délivré Pierre d'une prison, Actes chapitre 3, 4, si je me souviens bien. Il va délivrer beaucoup, mais parfois il ne le fait pas. Et au milieu de l'affliction, est-ce que notre première réaction c'est de nous glorifier en disant « Oui, merci Seigneur pour cette épreuve. » Il y a ce chant qui commence comme cela, « Merci Seigneur pour l'épreuve que tu envoies. » Et c'est facile à chanter. « Merci Seigneur pour l'épreuve. » C'est plus difficile à vivre, n'est-ce pas? Quand l'épreuve arrive, est-ce que nous sommes comme les chrétiens du premier siècle qui, après avoir été battus par les chefs religieux, reviennent dans l'assemblée et disent « Merci Seigneur que nous avons été trouvés dignes de souffrir pour toi. » Ils ne disaient pas « Pauvre nous, signons une pétition, on ne veut plus de ça, on veut sortir de cette affliction. » Non, ils se glorifiaient dans cela. Mais cela nous semble tellement impossible parce que les épreuves sont dures. L'affliction, elle est bien réelle. Et quand nous avons mal, et pour l'avoir expérimenté, et pour chacun de nous l'avoir expérimenté, quand on a mal, on veut que ça s'arrête. Il n'est pas normal de vouloir que le mal continue. Ça, c'est anormal. Non, quand on a mal, on veut que ça s'arrête. On veut guérir. On veut que la pression s'enlève. Et parfois, Dieu va le faire. Gloire à Dieu, il va nous délivrer. Mais parfois, ça va être comme Joseph, qui, injustement sera accusé, mis en prison et sera oublié pendant 2 ans. Vous savez, quand on attend, il croyait que le boulanger de Pharaon allait parler en bien, mais non, il va l'oublier. Et jour après jour, Joseph s'attend à recevoir des nouvelles. Ah, est-ce qu'aujourd'hui, le boulanger a parlé à Pharaon? Est-ce que c'est peut-être aujourd'hui? Et 2 ans, vous savez, 2 ans, c'est très long. Ça peut passer assez rapidement, mais quand on attend comme cela, c'est très long. Donc peut-être ce sera comme Joseph, peut-être ce sera comme Job, qui reçoit les afflictions de la part de Satan même. Et Dieu le permet. Et Dieu n'explique pas à Job pourquoi il souffre ainsi. Et pourtant, ces deux hommes, des exemples extraordinaires de confiance en Dieu, à travers leurs afflictions, à travers leurs épreuves, continuent de persévérer. Et justement, dans ce verset 3, bien plus nous nous glorifions même des afflictions. Comment est-ce possible? C'est parce que nous sommes sauvés. Les inconvertis ne sont pas du tout capables de ceci. C'est quelque chose de surnaturel. Nous nous glorifions même des afflictions. Et puis Paul commence sa logique, sachant que l'affliction produit la persévérance. Et c'est assez intéressant comment Paul va formuler les phrases qui suivent. Il va dire, il y a l'affliction. C'est une réalité pour chacun. À un moment ou un autre, nous aurons des afflictions. Et si vous n'avez pas l'affliction aujourd'hui, je suis désolé de vous le dire, ça va arriver. Je ne veux pas annoncer de mauvaises nouvelles, mais voilà, c'est la réalité. Nous vivons dans un monde déchu, un monde où le péché est là. Et si aujourd'hui nous n'avons pas des afflictions, ben peut-être demain on en aura. Ou peut-être le lendemain, ou peut-être l'année prochaine, peut-être dans 10 ans. Mais des afflictions vont arriver. Et lorsque ces afflictions arrivent, ces afflictions nous permettent de persévérer. Et on n'a pas souvent tendance à réfléchir de cette façon, mais sans des afflictions, il n'y aurait aucune raison de persévérer. Persévérer lorsque tout va bien, ça c'est facile. Ça ne demande aucun effort, mais persévérer, continuer, lorsque ça va mal, ben c'est là où ça demande un effort, c'est là où on a besoin de la grâce de Dieu. Et Paul dit, il y a l'affliction, et cette affliction nous donne la possibilité de persévérer. Et par la grâce de Dieu, nous persévérons. La certitude de Paul ici est assez étonnante. Il dit, l'affliction produit. Ce n'est pas peut-être. Quelques-uns, certains vont persévérer. L'affliction pour quelques-uns va produire cela. Mais non, l'affliction produit la persévérance. C'est la suite logique de l'affliction. L'affliction, peu importe ce qu'elle est, maladie ou autre, n'est pas sans raison. Et Paul dit, cela nous permet de persévérer, et par la grâce de Dieu, nous persévérons. Et verset 4, la persévérance, la victoire dans l'épreuve. C'est formidable. Oui, l'affliction, elle est dure, et il ne faut pas minimiser l'affliction. La réalité de la souffrance est quelque chose de très dur. Perdre un être cher, savoir qu'on a une maladie grave, sans remède, perdre son travail, perdre un membre, avoir un accident et puis avoir un membre coupé, avoir des difficultés à n'importe quel niveau, ces choses-là sont dures et il ne faut pas minimiser la réalité de cela. Et il faut avoir compassion des gens qui passent par ces moments difficiles. Mais en même temps, la réalité est là que cette affliction produit la persévérance. Et cette persévérance, parce que nous persévérons par la grâce de Dieu, produit la victoire. La victoire dans l'épreuve. encore une fois, sans affliction, sans épreuve, pas de perspective de victoire. Mais Dieu permet ces choses pour nous montrer que par sa grâce, nous pouvons aller jusqu'au bout, nous pouvons surmonter. Et puis à la fin de verset 4, cette victoire, elle produit l'espérance. Et là, on retrouve ce même mot que nous avons vu à la fin de verset 2, dans l'espérance de la gloire de Dieu, l'espérance finale d'être avec Dieu un jour pour l'éternité, mais l'espérance aujourd'hui qui nous permet aussi d'aller jusqu'au bout. Donc c'est toute une suite, l'affliction qui produit la persévérance, qui elle produit la victoire, qui elle produit la persévérance, et ainsi de suite. On parle parfois de cycle vicieux, mais là c'est un cycle de bien. Et cela vient de Dieu. Et c'est là au verset 5, Paul dit, mais sur cette idée d'espérance, arrêtons-nous quelques instants. Paul, c'est comme si Paul le dit, je lis entre les lignes, si vous permettez. Or, l'espérance ne trompe point. Vous savez, parfois, on espère certaines choses et on est déçu. Parce que ça n'arrive pas. Parfois, on espère accomplir telle ou telle chose. Parfois, on espère être telle ou telle personne. Moi, j'espère un jour faire au moins 1,70 m. Je ne demande pas grand-chose. Je ne demande pas 2 m. Non, un tout petit peu plus grand. J'espère, mais bon, je serai toujours déçu. Hein. Cette espérance-là, elle trompe. J'espère un jour pouvoir conduire, avoir dans ma possession une Corvette, la voiture de sport américaine. D'ailleurs, entre parenthèses, dans les années 1950, fabriquée pour rivaliser les grandes marques européennes dans la course de voitures. Bon, je ferme la parenthèse. Mais cette espérance-là aussi, elle va tromper. Je vais être très déçu. À mon avis, je n'aurai jamais une Corvette, si ce n'est des petites voitures de collection. Cette espérance-là va tromper, va décevoir. L'espérance qui est produite par l'affliction, par la persévérance, par la victoire, par cette espérance en Dieu, elle ne trompera pas. Et Paul donne la raison pour cela. Cela ne vient pas de nous. Ce n'est pas parce que nous persévérons, parce que tout cela vient de nous. Non. Paul, il dit, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Si nous sommes justifiés par la foi, nous avons le Saint-Esprit. Chaque personne sauvée possède en entier le Saint-Esprit. Il n'y a pas de personne sauvée qui n'a pas le Saint-Esprit. Paul va écrire aux Corinthiens en disant, si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous n'appartenez pas à Dieu. Donc, quelqu'un qui appartient à Dieu a obligatoirement le Saint-Esprit. Et c'est parce que, par le Saint-Esprit, Dieu a répandu son amour en nous, Dieu est le garant de notre espérance. Et parce que Dieu est le Tout-Puissant, parce que tout ce que Dieu dit et fait se réalise, ça dépend de lui, nous pouvons avoir l'entière confiance qu'il accomplira ce qu'il a dit et qu'il mènera à bien ce qu'il a promis. Et cette espérance n'est pas en nos capacités personnelles, sinon là on serait vraiment déçus, n'est-ce pas? Et nous sommes déçus bien souvent, nous décevons les autres. Mais Dieu, parce qu'il se porte garant de ceci, ne déçoit jamais. Il est toujours fidèle, malgré notre infidélité. Et comme si on pourrait douter de cela, Paul dit, alors je vais vous donner quelques exemples. C'est comme si Paul dit, peut-être vous avez des objections, peut-être vous allez dire, ah oui, mais Paul pense à ceci, pense à cela, et si ceci arrivait. Et Paul dit, ah, non, revenons au début. Verset 6, regardez. car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. Paul dit, vous voulez savoir comment je sais que Dieu accomplira tout ce qu'il a dit? Comment Dieu mènera toute chose à son terme? Paul dit, il faut tout simplement regarder à ce que Dieu a fait en Jésus-Christ. Il y avait des impies qui méritaient la punition éternelle de la part de Dieu. Et Paul dit, nous ne pouvions rien. On était sans force, totalement incapables. Et à ce moment-là, Christ est mort pour ces impies. Et puis, c'est comme s'il fait une petite parenthèse, juste pour appuyer ce qu'il est en train de dire. Il dit, à peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un qui a fait beaucoup de bien, qui a toujours agi avec droiture, qui s'est toujours donné pour les autres, et qui se trouve dans une situation où il faut sauver sa vie, mais pour sauver la vie de cette personne, il faut donner la sienne. Peut-être on le ferait. Donc Paul dit à peine, et c'est même pas sûr, mourrait-on pour un juste? Quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Possible, mais c'est pas sûr. Et la conclusion logique, c'est combien plus on ne mourrait pas pour quelqu'un qui nous a fait du mal? On ne mourrait pas pour son ennemi? Non, c'est son ennemi qu'il meurt. il reçoit ce qu'il mérite. Et c'est là, après ce verset 7, parenthèse que Paul introduit, mais, ce mot il est formidable. Même en grec, il ne fait que 4 lettres, en français aussi. Mais ces 4 lettres font toute la différence. Mais, Dieu manifeste de la façon la plus claire et de la façon la plus indiscutable. C'est l'idée de ce que Paul est en train de dire ici. Dieu prouve, Dieu manifeste, il témoigne son amour envers nous. Et ce que j'aime faire, c'est changer ce « nous » en « moi ». Dieu prouve, Dieu manifeste son amour envers moi. Ceci n'est pas un amour général. Oui, Dieu a tant aimé le monde. Non, mais il nous a aimés individuellement. Ceci ne s'applique pas simplement aux autres. Ceci s'applique à moi. Et vous, chacun, individuellement. Et malgré notre péché, malgré notre infidélité, malgré notre inimitié contre Dieu, Paul dit, lorsque nous étions encore des pécheurs, lorsque nous étions le plus éloignés de Dieu possible, Christ est mort pour nous. Christ est mort pour moi alors que je ne le méritais pas du tout. Alors que je pensais à toute autre chose, Christ est mort pour moi. Et par sa mort, et bien sûr sa résurrection, il prouve, il manifeste, il montre sans aucun doute, sans aucune discussion possible, qu'il nous aime. Et lorsqu'on réfléchit à cela, si Dieu nous a aimés à un tel point, est-ce qu'il permettrait quoi que ce soit dans notre vie qui ne serait pas pour notre bien et pour sa gloire? Et je vous soumets que non. Si Dieu est assez grand pour permettre à son Fils unique de venir mourir sur la croix pour nous, ne croyez-vous pas qu'il est assez grand pour diriger chaque événement, chaque situation dans notre vie? Et Paul dit, c'est pour cela que nous pouvons nous glorifier, nous réjouir même de nos afflictions. Parce que c'est Dieu qui est en train de travailler dans notre vie. Oui, mais les gens, ils font ceci. Oui, mais il y a l'amour de Dieu. Oui, mais malheureusement, j'ai péché, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Oui, mais il y a l'amour de Dieu. Oui, peut-être Dieu le fait pour les autres, mais il ne le ferait pas pour moi. Ce n'est pas ce que Paul est en train de dire. Non, il le fait pour nous. Et au verset 9, Paul arrive à la conclusion de son raisonnement. À plus forte raison donc, si lorsque nous étions tellement éloignés de Dieu, nous étions ses ennemis, comme Paul va le dire aux Éphésiens, nous étions des pécheurs, Christ est mort pour nous, si tel est le cas, à combien plus forte raison, c'est comme Paul dit, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Colère de Dieu qui va s'abattre sur la terre à la fin des temps, mais même colère de Dieu qui se déverse aujourd'hui, le jugement de Dieu sur les impies aujourd'hui. Et verset 10, « Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. » Donc Paul dit, c'est logique. Si Dieu l'a fait lorsque nous étions ennemis, bien sûr, et à plus forte raison, il va le faire maintenant que nous lui appartenons. Et pourtant, les choses difficiles qui arrivent dans notre vie nous voilent la face, nous fait perdre cette perspective de l'amour de Dieu. Dieu nous aime tellement qui ne laisse rien au hasard. Et pourtant, Satan voudrait nous faire croire que les choses arrivent par hasard, que Dieu est impuissant, ou peut-être Dieu ne se soucie pas vraiment de nous et qu'il, malheureusement, laisse des choses se passer qu'il ne contrôle pas. Non, 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 c'est faux. Ici, Paul est en train de dire l'amour de Dieu pour nous fait qu'il va diriger chaque circonstance de notre vie. Et même mes propres choix ne peuvent pas affecter l'amour de Dieu pour moi. Malgré mon péché, parce que nous péchons tous, reconnaissons-le, soyons honnêtes, nous péchons, mais mon péché n'affecte pas l'amour de Dieu pour moi. Dieu ne m'aime pas moins parce que je pêche contre lui. Ou parce que je m'écarte de sa volonté. Ou parce que je fais ce qui lui déplaît. Non, il m'aime tout autant aujourd'hui que lorsqu'il m'a sauvé. Il m'a aimé avant que je sois créé. Et il m'aimera jusque dans l'éternité. Et il y aurait quelque chose aujourd'hui qui échapperait à son contrôle et à son amour pour moi, mais pas du tout. Et pourtant, en lisant ce passage, je ne pouvais pas m'empêcher de penser au livre de l'Exode. Où Moïse, Aaron vont vers Pharaon, lui demandent de laisser aller le peuple d'Israël. Et Pharaon dit, mais c'est parce que vous êtes des paresseux que vous voulez sortir. Alors, au lieu de vous laisser aller, je vais vous accabler de plus de travaux. Je vais rendre votre vie plus difficile. Et lorsque le peuple va voir cela, c'est frappant, la Bible nous dit que Moïse et Aaron vont parler au peuple, mais ils ne pouvaient pas les écouter parce que leurs afflictions les rendaient sourds. Ils ne pouvaient pas écouter Moïse et Aaron parce qu'ils étaient tellement accablés d'afflictions, de travaux, qu'ils ne voulaient rien entendre. Et pourtant, Dieu s'occupait de son peuple. Et parfois, je suis un peu comme les Israélites en Égypte. Parfois, je suis comme d'autres personnes à travers l'histoire qui, en face de toutes les épreuves, de toutes les afflictions qui sont devant moi, je refuse d'écouter Dieu. Soit je ne lis pas sa parole, ou même si je la lis, je ne l'applique pas à ma vie. Je ne la laisse pas vraiment me parler. Et à ce moment-là, j'ai besoin de revenir vers des passages comme ici, Romains chapitre 5, pour voir que Dieu m'aime. Oui, Dieu aime toute l'humanité. Nous sommes ses créatures, gloire à Dieu, mais j'ai besoin de personnaliser cela. Dieu m'aime. Moi. Et il m'aime autant aujourd'hui qu'hier. Il m'aime tout autant que lorsque j'étais sauvé. Et son amour continuera. Peu importe. Et je peux me réjouir des différentes circonstances dans ma vie. Oui, même des afflictions, parce que Dieu m'aime. Et parce qu'il m'aime, je sais que ces afflictions sont contrôlées par lui. Et ces afflictions que je subis, ces épreuves, vont me permettre de persévérer. Et parce que par la grâce de Dieu, je persévère, je vais avoir la victoire. Et parce que j'ai cette victoire, j'ai l'espérance de Dieu. Et c'est là au verset 11, Paul arrive à la fin de ce paragraphe en disant non seulement cela, mais encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Paul démarre au verset 1 en parlant de la justification par la foi. Et il termine au verset 11 en disant nous sommes réconciliés. Nous étions éloignés. Mais maintenant, nous sommes réconciliés. Et lorsque nous pensons à cela, ça doit changer notre optique. Bien sûr, les circonstances ne changeront peut-être pas. Les circonstances n'ont pas changé tout de suite pour Joseph. Les circonstances n'ont pas changé tout de suite pour Job. L'un et l'autre ont dû aller jusqu'au bout et endurer des choses très difficiles. Mais l'un et l'autre ont persévéré et l'un et l'autre ont eu un témoignage remarquable dont on parle littéralement des milliers d'années après. Job a vécu il y a presque 4000 ans. Joseph, lui, il a vécu il y a plus de 3000 ans. Et on en parle encore aujourd'hui. Est-ce qu'on va parler de moi dans 10 ans? Dans 20 ans? Dans 30 ans? Est-ce qu'on va parler de moi dans 1000 ans si le Seigneur tarde à revenir? Si je persévère par la grâce de Dieu, si j'ai un témoignage pour lui, peut-être. Mais ce sera à la gloire de Dieu. Alors, où en sommes-nous aujourd'hui? Est-ce que nous avons perdu de vue un peu l'amour de Dieu personnel pour nous? Est-ce que nous avons détourné notre regard de Dieu pour focaliser sur notre affliction? Est-ce que nous voyons l'affliction comme une mauvaise chose à éviter à tout prix, dont il faut se sortir le plus rapidement possible? Ou est-ce que, par la grâce de Dieu, nous relativisons cela en disant « Dieu m'aime ». Et parce qu'il m'aime, il dirige mes circonstances. Et je peux lui faire confiance. Et en son temps, il agira. Il est en train d'agir. C'est ça la perspective qu'il veut que nous ayons. Et cela commence avec une décision aujourd'hui. Ceci se prépare à l'avance. Ce n'est pas lorsque l'affliction arrive, mais même avant. Il faut prendre cette décision. Oui, Dieu, tu m'aimes. Je vais te faire confiance parce que tu m'aimes. Et je vais t'aimer en retour. Nous ne devons pas rester indifférents face à l'amour de Dieu. Alors, cette semaine qui est devant nous, il y aura sûrement des afflictions, petites afflictions, de grandes afflictions peut-être. Qu'allons-nous faire? Souvenons-nous, Dieu nous aime. Et dans ces afflictions, persévérons. Et à travers cette persévérance, nous aurons la victoire. Et avec cette victoire, nous aurons l'espérance. Et tout cela à la gloire de Dieu. Prenons cette décision aujourd'hui. Prions, s'il vous plaît. Oui, Seigneur, nous te louons, nous te remercions pour ton amour. Cet amour si grand, infini, sans limite, qui ne change jamais. Merci que tu nous aimes individuellement, tu nous connais intimement. C'est toi qui nous as créés. Et Seigneur, nous demandons ton aide pour nous souvenir de ton amour, pour mettre ces choses en pratique, que tu nous gardes, Seigneur, que nous puissions prendre cette décision de te faire confiance, qu'il soit évident dans notre vie pour tous que nous te faisons confiance, que nous nous appuyons sur ton amour, que cet amour se vit à travers nous. Et Seigneur, que tu reçois la gloire pour cela, que les gens nous voient, qu'ils puissent te glorifier. Et Seigneur, que ton œuvre continue dans notre vie, aujourd'hui, demain, pendant toute cette vie que tu nous donnes sur la terre. C'est en ton nom que nous prions. Amen.